C'était dit rendez-vous dans 10 ans.
Je suis Buzz.
Buzz.
Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps ?
Rétro Buzz !
Rétro Buzz, la tendance avec 10 ans de retard.
10 ans ? Mais c'est énorme !
Buzz, Buzz White. Buzz White.
Tout ce que tu fais peut avoir de graves répercussions sur le futur.
Buzz White.
Présenté par FX,
PA
et Roman.
Buzz, Buzz White.
Chaque mois,
retour sur les buzz d'il y a 10 ans.
Maintenant, il est bloqué dans le passé.
Que sont-ils devenus ?
Existent-ils toujours ?
Réponse tout de suite dans Retro Buzz.
Merci, oui. Merci à tous pour cet accueil mémorable.
Salut à tous et toutes et bienvenue dans Retro Buzz, l'émission qui suit la tendance avec 10 ans de retard. On se retrouve cette année, mais j'ai toujours pas changé de cette phrase. Hein. Chaque début d'émission, ça va commencer par cette année, donc je vais la changer avec mon stylo. Donc on se retrouve ce mois-ci, on est en décembre, ce mois-ci encore sur Prune, tous les troisièmes jeudis de chaque mois, de 13h à 14h. Bon, je sais que vous trépignez, cher chenapan. Vous n'en pouvez plus et vous vous demandez impatiemment quel est le programme de cette émission de décembre. Des guirlandes ? Bien sûr que non. Des sapins ? Que nenni ! Des traîneaux ? Oh, 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 oh. Et puis quoi encore ? Calme-toi, Rudolf, et mets ton masque sur ce nez tout rouge. Vous voulez des cadeaux ? Vous voulez des surprises ? Évidemment ! Arrête, ça te fait marrer ?
Ouais.
Évidemment, vous allez avoir des surprises. On a lu vos listes de souhaits à Retro Buzz et... Oh, 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 oh. T'as vu ? C'est le Père Noël.
Bien.
On va vous offrir du buzz. Ah, ouais. En veux-tu, en voilà. Mais du frais ? Sûrement pas. Du buzz de 10 ans d'âge, qui a vieilli en fût. Pas toujours à son avantage d'ailleurs. C'est donc parti pour un retour sur décembre 2011 avec mes acolytes de toujours et... Mais dites donc, on accueille une nouvelle personne dans l'équipe. Oh, quel beau cadeau. Elle était invitée le mois dernier. La voilà désormais chroniqueuse. Sera-t-elle le mois prochain présentatrice de Retro Buzz, directrice de Prune ? Je ne sais pas. C'est Adriana. Comment vas-tu, Adriana ?
Eh ben, ça va très bien, merci.
De rien.
Oh, 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 oh. Tu le fais trop bien.
Oh, oh.
Moi, je vais vous présenter PA. Alors, je ne sais pas grand-chose de lui, mais j'ai retenu qu'il peut faire des chroniques plus longues que Les Misérables, et je parle du livre, pas du film.
Bam.
Aujourd'hui, sa chronique devrait vous faire frémir.
C'est très mignon. Merci.
Mais
salut, PA. J'ai réduit. Salut et merci pour cette présentation. Et donc, à mon tour, de présenter Roman, celle qui est prête à tout pour assurer la qualité sonore de cette émission, même si ses petits doigts gelés lui font mal aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris. Roman, ça va ?
Ouais, ça va. Effectivement, c'est les mains froides, mais ça devrait le faire pour aujourd'hui.
Ok.
Et on finit avec notre cher présentateur, celui qui fait les meilleures imitations, apparemment, on a vu ça. Il était aussi chaud et épicé qu'un vin chaud au marché de Noël en décembre, l'alcool en moins. Salut FX, ça va ?
Bah ça va très bien, merci Roman. Bon, bah ça y est, le tour de présentation est fait. On décolle pour la magie du buzz de Noël.
Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Je suis Buzz l'éclair, je viens en paix.
Allez, on y va, PA. J'ai ouï dire que tu allais nous parler de fantômes. Tu sais que c'est plus la période d'Halloween ?
Ouais, mais c'est pas grave. Je trouve que ça colle bien avec l'esprit de Noël. J'aime bien être en décalé aussi. Par contre, mes petits rétro-buzzistes, l'heure est grave. L'heure est grave,
mais non.
Si, car j'avoue et j'assume, j'ai changé un petit peu les règles de,
non,
de
l'émission. Non, déjà ? On est qu'en décembre.
Bah alors, un petit peu. J'ai dérogé à la sacro-sainte règle de prendre un buzz, un gros buzz, bien fat comme on les aime bien, pour une info plus anecdotique, plus insolite, d'il y a 10 ans toujours, ça
oui,
bouge pas.
Bah heureusement.
Mais on n'est pas sur un gros buzz massif. Voilà, je tenais à vous préciser ça. Par contre, c'est une information qui a tout pour plaire quand même, comme vous allez pouvoir le voir, le constater. On est parti avec mes trois mots-clés quand même, je les rappelle.
Oui. Dis donc, PA, juste avant de commencer, tu serais pas en train de meubler un petit peu là ?
Non, pourquoi ?
C'est pas la compète de la plus longue à chaque fois, chronique.
Mes trois mots-clés. Non, franchement, je meuble pas. Je tenais à préciser ça aux auditeurs. Samoa, fantôme et jour. Tels sont les trois mots-clés qui vous conduiront à une actualité de décembre 2011. Direction les rues de Nantes et un premier obstacle, le mot Samoa, tout simplement.
Mais Samoa, c'est un mot, ça? Ça veut dire quoi?
Alors, je crois que c'est une entreprise. La Samoa, c'est une entreprise de retraitement des déchets ou quelque chose. Non, je dis de la merde. Je vais pas tricher, mais non, il me semble que c'est une entreprise, ouais. Je sais plus ce qu'elle fait exactement, mais il me semble que c'est ça, ouais.
Les îles Samoa, c'est où? C'est dans le Pacifique, ça? Je connais juste parce que j'ai vu un match de rugby une fois avec les îles Samoa, quoi. C'est assez triste de voir que sa culture est réduite à ça.
Voilà. Donc quand même deux salles, deux ambiances, hein, comme on dit. D'un côté, les Nantais, les Nantaises, qui associent donc la Samoa à une entreprise locale. Je crois qu'ils ont parlé de recyclage tout à l'heure. Est-ce que ça vous parle, ça vous dit quelque chose ou pas?
Moi, je ne connais pas Prec. Ah.
Un peu.
Tu connais pas Prec, voilà.
D'accord, merci. Moi, ça me dit un truc, mais je suis pas sûre que ce soit exactement ça le nom de la société.
Eh bien, la Samoa existe bien. C'est la Société d'aménagement de la métropole ouest atlantique à Nantes.
Mais non.
Mais si. Et en fait, c'est eux qui s'occupent de tout, notamment la rénovation urbaine de l'île de Nantes, pour faire rapide. Et puis de l'autre côté, on avait les îles Samoa, que les amateurs de rugby connaissent, mais qu'on ne situe pas bien forcément, on ne sait pas trop où. Je crois qu'il a
si,
dit tout à l'heure...
À côté de Cardiff, non?
Ouais, par là, un peu plus à l'est. Donc deux hypothèses, je vous dis pas tout de suite laquelle est la bonne. Je vous propose plutôt de poursuivre avec chacune de ces hypothèses et avec un nouveau micro-trottoir.
Alors ça me rappelle un truc, parce que je crois que la Samoa, c'est à peu près à ce moment-là qu'ils ont commencé à récupérer, tu sais, tout ce qui était construction sur l'île de Nantes, aménagement de l'espace urbain, etc. Je crois qu'il y a eu un truc assez mystique autour de l'esprit de Noël. Il y a eu un truc de des gens qui ont raconté justement qu'ils ont vu des ombres sur l'île de Nantes autour de Noël. Enfin, je sais plus bien, mais je crois que c'était une histoire comme ça.
C'est plus bien.
Bah, nous, qu'est-ce
plus,
que c'est que
c'est
ça
plus bien du coup. Et tu vois quand même, il y a le lien mystique, fantôme, Noël, ça roule. Hein.
La Samoa, moi, je croyais qu'il avait parlé de la moutarde.
Ouais, la Samoa. C'est un mix entre Amora et la Samoa. Très bien. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce.
Bah, écoute,
première hypothèse,
je
crédible.
Je sais pas vraiment si c'est. Ouais, non, moi j'y crois pas.
Ok.
Moi je m'en souviens plus.
Moi je trouve que ça fait un bon scénario de polar. Je sais pas ce que.
Ouais.
Ouais.
À Nantes.
Ouais, tu vois, ça démarre comme ça.
Ouais, non, mais pourquoi pas en fait. Mais pour
je sais
moi,
pas,
c'est
moi,
pas.
Moi je prends quoi, tu vois.
C'est quoi, c'est genre terreur sur le chantier,
c'est terreur sur le chantier naval.
C'est ça. Naval, ouais.
Okay.
Avec les fantômes des ouvriers des chantiers qui reviennent, tu sais, hanter la Samoa. Bon, première hypothèse.
Casper Noël.
Je vous propose de passer directement à la seconde hypothèse, puisqu'on va faire après ensemble, c'est que vous allez me dire laquelle est la plus crédible entre les deux. Voilà, tout simplement. Donc, nouveau micro-trottoir pour trouver l'actualité de décembre 2011, Samoa fantôme, jour.
C'est vrai que les fantômes, c'est plus la nuit. Ah. Et du coup, dans les îles Samoa, c'est avec le décalage horaire, du coup, ils ont des fantômes le jour. J'imagine. Tout est calé sur notre fuseau, même pour les fantômes. Ok, ah, c'est intéressant. Du coup, bah ouais, voilà. C'est en fait, dans les îles Samoa, c'est un truc qu'on sait pas. Mais les fantômes, en fait, ils sortent le jour, contrairement à chez nous. Et ça, ça m'a hyper surpris la première fois que je l'ai appris en 2011.
Voilà, j'aimerais qu'on s'arrête deux secondes sur cette phrase. On a toujours des poètes dans les micro-trottoirs, franchement. Tout est calé sur notre fuseau horaire, même pour les fantômes. Et je trouve que cette phrase est belle. Voilà. Donc, deux hypothèses. L'hypothèse Samoa-Nantaise avec les chantiers navals, tout ça. Et puis l'hypothèse les îles Samoa avec un fantôme, on ne sait pas trop.
Et tu voudrais dire qu'il y a des fantômes de matin, des fantômes d'après-midi, des fantômes de soir, en fonction du fuseau horaire.
Du fuseau horaire. Il y a un postulat qui est de dire que les fantômes, c'est plutôt la nuit.
Okay. Ouais,
mais que, si j'ai bien compris ce que la personne vient de nous dire, avec le décalage horaire, finalement, avec les fuseaux horaires, ce serait plutôt le jour.
Très bien.
Bon, lequel de ces deux micro-trottoirs qu'on vient d'écouter se rapproche, selon vous, le plus de l'information que je vais vous faire trouver?
Bah moi, je dirais le deuxième, juste pour le délire, parce que je trouve ça mignon.
Moi, je vote pour le polar nantais.
Polar nantais.
Ouais.
Ok.
Ouais, moi aussi pour le deuxième, j'ai envie qu'on apprenne quelque chose sur Casper Samoyen.
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 Samoyen. Si j'ai bien saisi. Je suis pas expert non plus, mais. Ok, d'accord, donc avis partagé dans la rédaction quand même de RetroBuzz. Je vous propose de découvrir la solution avec cet extrait de reportage.
Les îles Samoa veulent arriver plus vite en 2012. Elles s'apprêtent à faire un bond dans le temps en passant directement du jeudi 29 au samedi 31 décembre. Ce changement de fuseau horaire va leur permettre d'être davantage en phase avec leurs partenaires commerciaux. Actuellement, le pays a quasiment une journée de retard sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Ils sont à la traîne.
Waouh.
Hey, on se rapproche quand
j'y
même
attendais
du but. Donc, il s'agissait bien des îles Samoa. Voilà.
Okay.
Et figurez-vous que j'ai appris un truc super important, c'est qu'il est possible de voyager dans le temps. Tout ça à cause d'un changement horaire, et c'est ce que je vais vous raconter avec cette actualité, qui date du 30 décembre 2011. Alors juste avant, pour bien comprendre, on resitue les îles Samoa, 3000 km à l'est de la Nouvelle-Zélande, en plein Pacifique, archipel d'une quinzaine d'îles qui se séparent en deux. Je la fais très court, mais c'est important pour comprendre la suite. À l'ouest, les Samoa, donc qui étaient avant occupés donc par les Allemands, par la Nouvelle-Zélande et puis indépendantes depuis 1962. Et à l'est, les Samoa américaines, qui sont sous une sorte de statut un peu particulier, mais qui sont sous influence américaine. On a donc cet archipel qui est partagé en deux. Et voilà. Et l'enfant est perdu dans mes notes.
C'est un.
Ouais.
J'ai perdu dans mes notes.
Eh ben c'est bien. Bah alors, explique aux auditeurs ce que tu fais pour retrouver tes notes.
Excusez-moi. Bah je tourne les pages.
Oui, voilà.
Je tourne les pages. Merci.
Je verrai ça sur la vidéo.
Voilà. Donc voilà pour le topo un peu géographique. Ok. Un archipel, 15 îles. Il y en a une partie occidentale, une partie orientale. Et en fait, jusqu'à décembre 2011, il y a un autre élément qui est important à comprendre. C'est ce qu'on appelle la ligne de changement de jour. Je ne sais pas si vous connaissez.
Pas du tout.
Ou encore la ligne de changement de date internationale. Alors, je ne suis pas hyper calé, mais je vais essayer de vous expliquer ultra rapidement ce truc. En gros, vous voyez, il y a les fuseaux horaires. Quand on se déplace géographiquement, on va changer. On va rajouter une heure ou enlever une heure, ça dépend comment on va. Et bien, si on va tout au bout, du côté de la Nouvelle-Zélande, à un moment donné, on change de jour. Voilà. On change de jour. C'est-à-dire que lorsqu'on va de la Nouvelle-Zélande aux États-Unis, on va franchir cette frontière-là, imaginaire bien sûr, et on va rajouter un jour.
Voilà. Donc tu veux dire que si on fait des tours du monde très rapidement, on remonte le temps?
Eh ben c'est un peu ça. C'est là où j'ai pas super creusé le truc non plus. Mais en gros, à force de rajouter une heure, finalement, on rajoute un jour. C'est ça que j'ai un petit peu retenu. Et donc, les îles Samoa, jusqu'en 2011, eh ben finalement, elles sont dans le jour qui est le même que les États-Unis.
Ok.
Parce que le fuseau horaire, il passait à l'ouest des îles Samoa.
Okay.
Et le 30 décembre 2011, j'arrive à mon actualité, on décide finalement de retracer cette ligne imaginaire, de retracer cette ligne de changement de date internationale et de la faire passer en plein milieu de l'archipel entre les deux parties. Ce qui fait que depuis le 30 décembre 2011, la partie occidentale, elle est dans la même journée que la Nouvelle-Zélande et la partie orientale est dans la même journée que les États-Unis. Voilà. Mais du coup,
oui.
C'est quoi cette histoire de fantôme?
Ah bah oui, c'est vrai.
Bah oui, voilà.
Oui, s'il te plaît, oui.
Et bah parce qu'au 30 décembre 2011, les Samoans, ils ont dû passer du 30 décembre 2011 au 1er janvier 2012.
Mais non.
Directement. Si, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ont un jour fantôme dans leur calendrier.
Très bien.
Un jour qui a été vécu partout,
sauf
chez eux.
Ah,
parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Donc au moment des 12 coups de minuit le 30 décembre 2011, et ben oui, ils ont basculé directement au 1er janvier 2012.
Mais pourquoi ils ne sont pas passés directement en 2025 pour les voitures volantes et tout ça?
Ils ont tenté. Ils ont tenté qu'ils l'ont fait, qu'ils sont revenus. Et
ah ok.
Sont partis.
En fait, c'était nul et ils ont fait non en fait.
Voilà. Donc c'est ça ma petite information insolite, c'est que en fait il y a un jour qui existe partout sauf chez eux, qui n'ont pas vécu. C'est un jour fantôme pour les Samoans. Je ne sais pas si vous saviez.
Trop cool.
Très bien, bah non, je ne savais pas.
Bah non, pas du tout. Bah, d'où l'info insolite. Enfin,
oui.
D'où l'info insolite,
pas le buzz. Voilà. Donc voilà.
Ok.
Très bien. Bah,
cool.
Cool.
Parfait.
Allez.
J'ai un petit fun fact pour finir quand
le
même.
Est-ce que c'est drôle?
Ouais, mais non, c'est un petit fun fact.
Est-ce que ça concerne un voyage en avion que tu aurais fait?
Non.
Et un film diffusé dans l'avion?
Non.
Non,
ok. En septembre 2021, la Samoa nantaise. Donc la fameuse société, elle est associée au festival nantais Non Digital Week avec un spectacle, un dispositif de mise en lumière d'un des espaces de l'île de Nantes. Et devinez le nom du spectacle.
Fantôme.
Exactement.
Oh. Allez.
Voilà, je vous laisse en musique avec un groupe de hip-hop des Samoa américaines, du coup, Arbor Light Boys, hip-hop, qui valorise la diaspora samoan all over the world, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la ligne de changement de date.
stand in the gas shop, boy.
Right.
Now why don't y'all stand up to the standing ovation of your own kind,
that's
your own people, right. Putting it down all over the world just for you and me.
We gotta show who we are to the world, my side, but we gotta go. Rep your gear from east to the west, everybody know it, I'm going. We gotta show who we are to the world, my side, but we gotta go. Rep your gear from east to the west, everybody know it, I'm going.
Check it, paramount you, paramount me. Might as well paramount to everybody that got no hate and disease. So hard to go home. Recollection to the throne. Don't be happy that you county trill. Y'all know it's home. Progress and they don't this and that. Quit try to act. Just step inside the world and tell them that you're the best. Petition no tattle brag. Flipping the humble swag. I love to see all the humbles united on this track.
Come alive, boys. Come on, turn on your light. Show the whole world what we feel inside. Come on, hurry up, baby. We got no time out.
Et oui, c'est bien moi qui tousse pendant les morceaux. Vous êtes bien sûr Prune 92 FM dans l'émission Rétro Buzz. Roman, c'est à toi. Après les concerts de rock afghans d'octobre et les succès de la comédie francophone de novembre, j'ai bien hâte de voir ce que décembre nous réserve.
Bah vous n'êtes pas prêts. Enfin si, là vous avez l'air prêts, mais je ne suis pas certaine. On va voir ce que ça donne. Donc je rappelle mes trois mots. Voilà les trois mots que qu'on a dû faire deviner à des personnes. Des Nantaises et Nantais, pour deviner donc mon buzz de décembre. Les trois mots sont homme, Asie et fin. Donc fin, F-I-N. Voilà. Et ben je vous propose tout de suite d'écouter ce que ça donne. Donc comme d'hab, un petit micro-trottoir, c'est parti.
Une grève de la faim en Asie pour protester. C'était il y a 10 ans. Donc le Vietnam était fini. qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là?
Ah, c'est notre géographe.
Si, homme. Ah, dommage. Ah, si, quelqu'un pour manifester sur les droits de l'homme en Asie a fait une grève de la faim. Donc c'est peut-être fictif, mais ok.
Il y a 10 ans,
Asie, homme, fin. Il y a eu un scandale sur les Khmers rouges, non? Un truc qui est ressorti, là, en Birmanie? Ouais, il y a eu un truc comme ça, je crois. On a dû arrêter un ancien dictateur en Birmanie qui était responsable du massacre des Khmers rouges. Voilà, ok.
Alors là, on a trouvé nos historiens de...
Ils sont là, du ils sont bois. Toujours là.
Ouais. Ça va, Fix.
Ah ouais, bah, c'est très bien, les Khmers rouges birmans, c'est bien. Nickel.
Et la guerre du Vietnam.
Et la guerre, bah, le Vietnam.
Le Vietnam
a été terminé.
Le Vietnam est fini.
N'en a plus cette année du Vietnam. Très bien.
Il n'y en a plus. Ok, bon, vous avez capté. On n'a pas trouvé encore.
Ouais,
enfin, les gens n'ont pas trouvé.
Qu'on n'a pas capté. Quoi.
Ils n'ont pas capté, voilà. Donc, la suite.
C'est la mort d'un putain de dictateur. Alors, je ne sais pas son nom. Et même, ce serait trop compliqué à dire parce que ce serait un peu trop dégoûtant dans ma bouche. En tout cas, j'en ai un mauvais goût. Et la fin, parce qu'il est mort et qu'on a envie qu'il meure, parce que c'est un homme horrible. Et ça s'est passé il y a 10 ans, mais ça se passe encore. Et puis voilà, on essaye que ça s'arrête, on essaye que ce soit la fin de ce genre d'homme au pouvoir.
Ah
ouais.
Ah, je vais pas dire si elle a raison ou pas, cette dame. Bon, elle m'a donné un petit peu ce ressenti de gerbe là. Enfin, oui. Ça sentait le dégoût dans sa voix.
Ouais.
Moi, en tant qu'animateur là, de l'émission, je vais quand même faire une note. Hein. On ne souhaite la mort de personne ici, hein. Même des dictateurs. On n'est pas.
Bah non, puisqu'on a un dictateur parmi nous. Donc,
c'est pas notre parole. C'est pas notre parole, non, bien sûr.
C'est pas notre parole. On la rapporte, certes, ouais, mais ce n'est pas notre parole. Donc, est-ce que vous avez une idée de ce dont elle parle, cette dame? De qui elle parle de...
En 2011, Hitler.
C'est
fini.
On se moque pas des historiens.
Est-ce qu'on n'irait pas du côté de la Corée, un peu, de la Corée du Nord, ou des choses comme ça?
Peut-être.
Je sais pas.
Ah, bah tu sais pas. Bah écoutez.
Ah, tu parles de Mao? Ouais, Mao.
Ouais. Non, de Staline.
Au choix. Bon, allez, un petit dernier, puis après, promis, je vous donne la réponse.
Fin. Comme. C'est très fin.
Et puis.
Oui, c'est fin, c'est quelqu'un de fin, qui est très svelte.
Ok, Asie, homme fin.
C'est compliqué ça, parce que c'est loin de nous. Mais du coup, en tant que bon occidental français, on sait pas ce qui se passe au loin, quoi.
Bah si, je me souviens, il y a la fameuse histoire du mec qui est parti en Thaïlande pour justement fêter les fêtes de fin d'année. Il n'avait pas forcément envie de rester en France par rapport au climat, etc. Et il lui est arrivé une sale histoire. Je ne sais plus exactement de quoi il s'agissait. Mais genre, je crois, un truc horrible. Il s'est fait enfermer dans un coffre, séquestré pendant quelques temps. Et puis, on l'a retrouvé découpé en morceaux, quoi, avec ses parties du corps à différents endroits de la Thaïlande. Enfin, c'était terrible, quoi.
La vache. La violence
du truc. Très violent. Alors, j'ai envie de dire, deux options s'offrent à nous, c'est plutôt à vous. Je vais reprendre un petit peu ton schéma PA, mais pour qui qu'on vote? Est-ce qu'on vote pour la première femme qui parlait donc de la mort d'un
dictateur,
d'un horrible dictateur qui doit mourir mort, ou la deuxième hypothèse de un gars fort sympathique qui est parti en Thaïlande et qui lui est arrivé plein de merde?
Ouais, visiblement, il a mal fini.
Adriana,
moi, je prendrais la première option, parce que les deux sont très violentes, mais je sais pas, la première me paraît meilleure.
Et Vix, toi, t'as une idée?
Moi, j'aimerais bien que ça soit un mix des deux. Un dictateur qui part en Thaïlande et qui il lui arrive des quelques bricoles.
D'accord, le karma, quoi.
Ouais.
Ok. Et toi, Péa?
Je partirais également, comme Adriana, sur la première.
Sur la première
Ouais, sur le décès d'un dictateur.
Eh bien, écoutez, la majorité a raison. Bravo.
Ah bah bravo.
Cool. Ouais. Merci, la majorité.
La majorité a raison dans ce cas.
Précisément, là, tout de suite, maintenant.
Là, tout de suite, ce n'est pas une phrase à extraire de son contexte.
Cette émission se politise énormément. Ouais.
Et donc, mes trois mots, c'était pour rappeler la mort de Kim Jong-il le 17 décembre 2011. Kim Jong-il.
C'est qui?
C'est une très bonne question. Tombe à point nommé. Kim Jong-il, c'était donc le dirigeant de la Corée du Nord entre 1994 et 2011. Voilà.
Et hey, donc c'est bien la Corée du Nord.
Et donc c'est ça, oui, c'est bien okay, la Corée cool. du Nord. Bravo cool. PA. T'avais le nom ou pas, Kim Jong-il?
Non, mais j'ai un peu le sentiment qu'ils s'appellent tous pareils de père en fils, donc je les confonds, ces dictateurs-là.
Et bien justement, alors petit point voilà. historique, comme tout dirigeant suprême, c'est comme ça qu'on les appelle là-bas, de la République populaire démocratique de Corée, il succède donc en 1994 à son père Kim Il-sung. Donc voilà, voilà, pas du tout la même chose. Mais attention, petite question pour vous, l'équipe. Lors du décès du dirigeant suprême, donc de son père, Kim Il-sung, combien de temps dure la période de deuil officiel, période pendant laquelle le fils n'est donc pas encore officiellement dirigeant suprême? Est-ce que c'est 8 mois, 1 an ou 3 ans?
1 an.
Moi, j'ai l'air 2 siècles.
3 ans. Non, ils sont chauds là-bas, ils sont chauds sur ce...
Eh bien, c'est fixe. Non, je déconne.
ouais, non, non.
Deux siècles.
Non, trois ans. Bravo, PA.
Ah, trois.
Que des bons points aujourd'hui. Trois ans. Donc oui, Kim Jong-il était déjà président du comité de la défense nationale, dirige l'armée populaire de Corée. Mais il a dû attendre 3 ans pour prendre officiellement la tête du parti du travail de Corée du Nord. Et être président donc, de la commission militaire centrale du parti du travail. Donc voilà, beaucoup de rôles en même temps, on l'a compris, c'est plutôt, plutôt un système de dictateur. Voilà.
De quoi on parle du coup là? Parce que moi je suis perdu là, sur tous ces partis. Ouais, parce que moi j'étais resté
alors,
sur les Khmer Rouges et Staline. Donc, c'est quoi le rapport avec les îles Samoa?
Et bah, de quoi on parle? On parle de la mort. De la mort. La fin, c'était, c'était pour pas dire mort, pour pas que ça soit trop facile. La mort de Kim Jong-il, donc mort le 17 décembre 2011. Officiellement, la version officielle, c'est qu'il est mort dans son train personnel à l'âge de 69 ans. Et je dis bien officiellement, la version nord-coréenne est donc que le dirigeant suprême, lors d'un déplacement à travers le pays, je cite, « a succombé à un grand épuisement mental et physique. Sa mort est survenue à la suite d'un infarctus du myocarde sévère, en d'autres mots, une crise cardiaque. » Voilà, c'est la version officielle.
Pourquoi tu sous-entends là, qu'il y a une version officielle ou...
J'y viens, ah, attention, suspense. La version officielle donc, qui s'accompagne... La version officielle s'accompagne sur la télévision coréenne hein, de diffusion en boucle de scènes de folie collective. La population pleure à chaudes larmes. Voilà, il y a des scènes de folie un petit peu partout dans les rues, de femmes qui pleurent, qui crient, etc. Mise en scène ou pas, voilà, c'est aussi la question qu'on va se poser.
Ouais, moi, j'aimerais quand même revenir sur le fait que le mec a un train personnel.
Oui,
ah, c'est ça. Hein.
Oui,
moi,
oui.
J'aimerais bien avoir un petit train personnel.
Bien sûr.
Mais donc, il a un train personnel, il est mort. Bon, ok, c'est quoi le problème?
Alors, le problème, voilà, on y vient. Ce qui a buzzé et ce qui commence à... D'où la question du train, hein, vous avez raison.
Ah.
C'est que... Pardon, je me...
tu te...
Je m'embrouille toute seule.
Ah.
L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais avec ce culte de la personnalité, eh bien, effectivement, il y a eu un doute. Il y a eu un doute sur la version officielle de sa mort. La principale théorie, c'est que déjà la mort dans le train, on n'y croit pas. C'est en tout cas la parole des services de renseignement sud-coréens.
C'est pas possible de mourir dans un train.
J'ai bien dit sud-coréen.
Pas dans son propre train.
Ah non, c'est pas possible.
Voilà. En gros, d'après les renseignements sud-coréens,
il ne serait pas mort dans son train.
Il ne serait pas mort dans son train, mais il serait mort 3 jours plus tard.
À la gare.
Voilà. Non, en fait, son train n'a pas bougé. Vous m'aidez pas du tout là. Il est pas mort dans le train puisque le train n'a pas bougé du week-end. Très bien.
La gare des Samoa.
Voilà.
Oui, ok.
Son train personnel n'a pas bougé du week-end. Ça a été voilà, la zone a été bouclée pendant tout le week-end et en gros, c'est cette version irait en fait avec ce culte de la personnalité. D'un dirigeant suprême qui serait dévoué au travail, qui serait tout le temps en train de travailler et qui serait mort d'épuisement à 8h30 du matin, sachant que d'après les renseignements sud-coréens, depuis une dizaine d'années, en fait, il avait déjà eu un problème de santé et en fait, il ne travaillait pas aussitôt. Donc déjà, ça met un peu le doute, d'autant plus que le train n'a pas du tout bougé.
Oui, mais si c'est lui qui conduisait le train, non. Parce que c'est son train personnel. C'est lui qui conduit le train, c'est normal qu'il n'ait pas bougé parce qu'il est mort.
Je vais revenir sur le côté du train personnel, tout simplement. Cette personne avait apparemment une phobie de l'avion. Donc, il avait son train personnel, genre il était tout seul dans son train et il voyageait uniquement en train, quasiment. Donc, dès qu'il pouvait, il voyageait que en train. Voilà. On va arrêter avec cette question du train.
Bon, bah d'accord, apparemment, il y a personnel. Des sujets qu'il ne faut pas évoquer ici, il ne faut pas évoquer les trains des dictateurs, très bien.
Bah en fait, ce n'est pas exactement le sujet, tu vois.
Mais du coup, il serait mort comment? On ne sait pas, il y a des pistes?
Eh bien, il n'y a pas vraiment de pistes, ça reste un mystère en fait, il y a plusieurs théories, donc normalement, il y a une des théories qui serait qu'il serait mort la veille au soir vers 20h dans une de ses luxueuses résidences, on ne sait pas de quoi. Voilà, et même cette théorie là elle est pas, il y a pas eu de c'est pas, enfin il y a pas eu de preuve que c'est ça. Il y a plusieurs personnes, donc notamment les Sud-Coréens, les États-Unis aussi, qui ont enquêté là-dessus, mais c'est très dur d'enquêter, même s'ils ont des sources, voilà, ils arrivent à avoir des sources apparemment en Corée du Nord, mais il y a pas eu plus de d'affirmations que ça. Voilà, et donc cette théorie, elle va dans le sens d'une image, d'une vie fastueuse. Tout comme son père, le personnage de Kim Jong-il était entouré d'un culte de la personnalité particulièrement poussé. Il y a eu des monuments, des défilés, des portraits, des badges. Il y a également des sources plutôt américaines pour le coup qui ont montré qu'il avait un train de vie pas du tout, ce qui n'est pas du tout en accord avec la simplicité qu'il démontrait. Par exemple, pour revenir un petit peu sur des chiffres, un petit peu de sa consommation. Apparemment, entre 1989 et 1999, Kim Jong-il aurait commandé entre 650 000 et 800 000 dollars d'alcool et de vin par an.
Voilà. Ouais. Wow. Bonne descente. Donc,
de vin fin, sous-entendu fin. Ah. Il aimait bien les vins français, d'ailleurs. Oh, yes. On est contents. Il possédait une cave de 10 000 bouteilles. Voilà. Bon, c'est des petites anecdotes, mais il y a l'idée que derrière ce culte de la personnalité... se cache en fait une vie de faste, et que par contre ça colle pas trop avec son image, notamment au moment de sa mort où c'est quand même un moment hyper important dans la succession, etc. Donc voilà, le buzz c'était de cette mise en scène potentielle, en tout cas possible, de cette mort. Voilà.
Et du coup, tu disais 3 ans là tout à l'heure, mais il se passe quoi pendant 3 ans? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef de l'État pendant
3 ans? Lui, il a un rôle, c'est-à-dire qu'il il est quand même là pour remplacer son père, mais pas en tant que dirigeant suprême du parti.
Ah oui, d'accord.
C'est vraiment le truc encore, le plus haut, il n'y est pas encore.
Il est pas au high level. Il n'a pas encore la cave avec les 10 000 bouteilles.
C'est ça.
Okay. 10 000 bouteilles ou alors 10 000 cubis de rosé, parce que ça, on ne sait pas en fait. Hein, des vins fins, mais peut-être qu'il était amateur de cubis de rosé aussi. Hein.
Parce que le rosé n'est pas un vin.
Il y a des lignes de fracture aujourd'hui dans cette équipe très prononcées.
N'importe quel sujet est propice à
cubis de rosé, quoi. Très bien.
Écoutez, voilà, c'était tout pour mon buzz. Ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit son bien français, bien de chez nous, mais qui parle de Kim Jong-il.
Je m'attendais à un chant populaire de l'armée
J'ai hésité,
coréenne.
Mais je me suis dit non, déjà, on parle d'un dictateur et tout ça. Donc, je vais plutôt proposer un son de H. Magnum et de Maître Gims. Voilà, un son que j'ai découvert pour cette émission et qui s'appelle tout simplement Kim Jong-il. C'est parti.
Je sais que t'es sous pression, je fais pas les choses à moitié. Je vais te baiser devant chez toi, non, je ne m'arrêterai pas à Poitiers. Si le dream en sonne, père Noah qui ressemble à Shen Pen, qui évolue dans ce monde de l'échampagne, inséré de la meuf sans le champagne. HLA, c'est la bonne paire, je me ferai rare comme une bonne sœur. Je te fais penser à ton père, normal car j'ai niqué ta. Fais pas le malin, tu vas te faire mêler, je viens faire le ménage. Trop d'illuminé, ne confonds pas le jack à limonade. Si t'as pas vu la bave, j'y vais mollo. Trouve-moi dans le tiède, mais pourquoi tu t'entêtes? Moi je suis ghetto high-tech, ça bicrape sous iPad. Pour le feat, ok c'est bon, fais-moi voir ton CV. T'as jamais fait de tête à tête, je ne pense pas pouvoir t'aider. Oh oui, my nigga, mes rimes sont codées. Ne crie pas, m'aider, pas de bras, pas de CD. Et puis merde, tant pis, je veux des milliards de centimes. Quand j'arrive, ça sent crime comme Kim Jong-il. Yeah.
Tu vas nous respecter comme Kim Jong-il. J'viens de là où les petits jeunes friment. Respecte-nous comme Kim Jong-il. Ici y'a peu de gens clean, père de mif junkie.
confirme Guevara. Pour qui tu te prends, Kadhafi, Che Guevara. Un pas de plus en bas, nique ta race. Style et la mala normale, là c'est Panam 4, Espanamara. Turbo, petit malin, allez viens, je vais te laver le toit. J'fais du peur à qui des coiffes, les rampages, j'ai le truc, j'fais des dégâts. J'suis dans les magazines, au cinéma de Belle Épine, j'fais mal comme la cocaïne qui vient de Philippines. Bolivie, Aston Martin, merci Martin. T'inquiète, je sais ce qu'ils attendent. Ils veulent des buts de Zlatan. Dormir dans des draps de satin, t'aspect le matin. Skyrock, énergie, septembre à septembre. Ah j'big up les 4 chemins, les mecs d'en bas, chez moi, Danube, les bouts de chemin, c'est Paris, forcément 9ème, la compte est saqué. Ah, c'est mes petits bébés, oui, c'est moi, tu veux ma teuf, laisse-moi passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es caché? Me qui prostiché, je te fais Versace, frère, faut pas se fâcher. J'en ai plus cassé, j'sais pas toi, tu sais, 1 million de CD.
Est-ce que je peux avoir ton petit copine?
Non, t'es moche et j'ai pas besoin de copine.
C'est qui?
Donne tous tes centimes, j'suis avec des gars stick, genre Ching Chong et Ching.
Tu vas nous respecter comme Kim Jong-il. J'viens de là où les petits jeunes friment. Respecte-nous comme Kim Jong-il. Ici y'a peu de gens clean, père de Mip Junkie.
Kim Jong-il. Kim Jong-il. Kim Jong-il. Kim Jong-il. Kim Jong-il.
Tu vas nous respecter comme Kim Jong-il. J'viens de là où les petits jeunes friment. Respecte-nous comme Kim Jong-il. Ici y'a peu de gens clean, père de Mip Junkie.
Kim Jong-il. Kim Jong-il. Kim Jong-il. Kim Jong-il. Kim Jong-il.
Tu vas nous respecter comme Kim Jong-il. J'viens de là où les petits jeunes friment. Respecte-nous comme Kim Jong-il. Ici y'a peu de gens clean, père de Mip Junkie.
Kim Jong-il. Kim Jong-il. Kim Jong-il, Kim Jong-il, Kim Jong-il. Ha ha, TPP.
Tchou tchou.
Drill.
Tchou tchou.
On est de retour sur Prune 92 FM dans l'émission Rétro Buzz, l'émission qui suit la tendance avec 10 ans de retard. De ton côté, cher FX, tu vas nous parler d'un président qui fait de la justice, c'est ça? Ou non, d'une histoire fictive entre Macron et Dupond-Moretti? Non, pas du tout. Explique-moi.
Eh ben, figure-toi que pas du tout. Hein? Mais franchement, t'es pas loin.
J'ai voulu essayer de deviner, mais c'était chaud.
Pas du tout, mais t'es pas loin.
Non, t'es pas loin. Et je dis ça juste parce que je suis gentil. Mais voilà. Ouais, j'ai été poser des questions à des gens au marché de Noël de Pollen. Le concept est toujours le même, hein, un peu comme vous. Je leur donne 3 indices concernant l'actu d'il y a 10 ans, que j'ai choisi, moi, et je leur demande de la retrouver. Et si jamais la mémoire leur fait défaut, je leur demande d'inventer une jolie histoire. Bon. Les 3 mots que j'ai donnés, c'est effectivement « président », justice et fictif. Et attention, ça part très très fort.
Il y a 10 ans, en 2011, président justice fictif. Il y a 10 ans, en 2011, président justice fictif. Moi, je pense aux attentats du 11 septembre. Non ?
Et voilà ! Bravo ! Eh oui, ça revient, comme à chaque épisode, vous l'avez eu tout à l'heure aussi.
C'est vrai.
Hein, c'est spécialiste de l'histoire. Donc, il y a 10 ans, en 2011, les attentats du 11 septembre.
Voilà.
C'est notre marronnier. C'est bon, après, il s'est ravisé. Hein, il m'a proposé cette petite histoire.
Ah, les emplois fictifs.
Okay.
Les emplois fictifs de... C'était qui, ça? C'était Kouchner. Hein. Ouais, c'était Bernard Kouchner et sa femme. Qui avait fait des magouilles avec des emplois fictifs à la mairie de Paris, je crois. C'était ça.
Eh ouais, Bernard Kouchner, alors on s'en rappelle, hein, Adriana, Bernard
Kouchner. Je ne sais pas qui c'est.
Eh non, c'est ça aussi d'avoir plusieurs générations dans l'équipe de Retro Buzz. Bernard Kouchner, toi tu t'en rappelles pas, hein, par contre, hein.
Bah ouais, je m'en rappelle.
Bien sûr, tu t'en rappelles, vu ton âge.
Ça va.
Les sacs de riz pour la Somalie, oui. C'était lui. Hein. Voilà. Ça, c'était en 92. Donc, pour les plus jeunes. Pas de condamnation pour des emplois fictifs liés à Bernard. On continue avec une autre piste et avec quelqu'un qui est très, 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 très sûr de lui.
C'était une sale affaire, là. C'était sorti, là. C'était en 2011, je m'en rappelle. C'était en décembre, non? Il y avait en fait, ils ont encore découvert qu'il y avait des putains d'emplois fictifs qui étaient liés. C'est à la droite forcément. Et il y a encore des problèmes de justice autour de la politique en France, quoi.
Qui
qui bah, c'était Nico, ok, voilà, je l'ai dit. C'est Nicolas.
Il a peur de rien. Et ouais, ok, il le dit, lui. Voilà, c'était
il
Nico.
Dans la dénonce, hein.
Nico, quoi. Ah, bah, c'est Nico. On n'aura pas plus de détails. Mais...
Bah non, mais c'est poteau Nico. Et puis c'est à la droite, c'est sûr, hein, car rappelons-le, à gauche, bah, il n'y a pas grand-chose à se reprocher. Hein. Cahuzac, si tu nous écoutes depuis ton hôpital de Bonifacio, clin d'œil avec les doigts. Parce que maintenant, oui, Cahuzac, il est dans un hôpital à Bonifacio. Il opère des gens. Voilà. Un petit dernier pour la route.
Mais non, c'est... Bah, si. Non, mais c'est vrai.
Mais c'est vrai, oui. Oh, mais les gens ont une vie après la.
Il faut bien qu'ils vivent
après le... la fraude fiscale.
Comment ? Il était médecin.
Il était médecin avant et oui. Il est toujours médecin après. et puis après, bah, je sais pas si la fraude fiscale, tout ça, où il en est. On pourra faire un petit topo avec lui. On va l'appeler tout de suite.
Non.
Ah, on n'a pas son numéro. Bon, un petit dernier pour la route. C'est quelqu'un qui a eu une autre piste, mais toujours le même suspect.
Si Sarko, je sais pas bien si c'était en décembre, mais c'était certainement en 2011. Si, si, maintenant que j'y pense, je m'en souviens. 2011, bah, je crois que c'était... on a découvert qu'il avait des comptes fictifs, je sais plus dans quel paradis fiscal. Voilà, enfin, du grand Sarko, quoi.
Bah oui, du grand Sarko, c'est ça. Mais laissez-le tranquille, ce petit Nico. Voyons, il est déjà bien engoncé dans son bracelet électronique pour ne pas lui rajouter des petites misères, quand même. C'est pas Sarko, en 2011.
Ouais, non, mais ouais. Tu convaincs personne, là. Personne.
Moi, je convainc personne. Ah ouais. Vous pensez que c'est Sarko ?
C'est... On va pas être là, on va répondre à
c'est
tout
pas ça.
Ça.
Il y a trop de questions dans tes questions. Non, on n'est pas en train de défendre Sarko. C'est,
ah
pas,
bon
c'est pas l'idée. Okay. On est en train de dire que ça colle pas avec les dates.
Ouais.
C'est ça, ah, dit. Ça colle pas avec les dates. Ouais. Et bon, alors c'est qui alors ?
Oh, mais aucune idée. Hein.
Je sais pas.
Je sais pas.
Je sais pas.
C'est une réplique d'affaires. Mais non, mais je vais faire
vas-y.
Mon vieux.
Mais bien sûr, vas-y.
Mon vieux.
Vas-y.
Mais fais-le vite, par contre.
De Chirac. Voilà. Ah ouais. Mairie de Paris, tout ça, quoi.
Et ben, effectivement, voilà. Ouh, bah c'est voilà, ça, bravo.
Ah ouais.
Et mais quel bon point aujourd'hui.
Oh, la vache.
Mais c'est ça. Élève. Vous verrez quand vous serez vieille. Vous aurez aussi des infos
vous
comme ça.
Vous saurez des choses.
Ouais. L'ex-président Jacques Chirac se fait condamner à 2 ans de prison avec sursis
mais
le
non.
15 décembre 2011. Et c'est une première en France. Alors pourquoi fictif ? Pourquoi fictif dans les trois mots ? Eh bien, parce qu'effectivement, il était question d'emploi fictif. Je ne vais pas vous faire un résumé. On va plutôt écouter un extrait d'un reportage de 13 heures de France 2, diffusé en 1998. Parce que oui, Retrobus, c'est vraiment une machine à voyager dans le temps.
Et revoici l'hôtel de ville au centre des affaires. Les révélations du Parisien s'appuient sur une liste des agents contractuels de la mairie, dont près de 200, d'après nos confrères, seraient des employés fictifs. Georges Quémard vient confirmer ces révélations. Il était directeur du personnel de la mairie entre 83 et 88. Il décrit ce qu'il a découvert à son arrivée. Les employés fictifs, dit-il, n'exerçaient dans le pire des cas aucune mission réelle pour la collectivité municipale et dans le meilleur des cas n'avaient que des activités de façade. Ces 200 faux emplois coûtaient près de 100 millions de francs par an aux contribuables parisiens, soit 1% de leurs impôts. Les faits concernent la période où Jacques Chirac était maire de Paris et en partie celle où Jean Tiberi était deuxième adjoint chargé du personnel.
Alors,
mais oui, les Tiberi.
Ben oui, Tiberi.
Alors moi, j'ai aucun souvenir. Pourtant, j'étais pas si jeune quand même. Mais
Alors oui. Déjà, on parle en franc ouais. Et on parle comme ça. Ouais. D'une ouais. Façon très bizarre. Donc,
toi, t'étais pas si née, toi.
Je n'étais pas née.
Le dernier, un peu de respect, si vous...
Bon, là, on a entendu parler de 200 emplois fictifs, mais ce serait finalement moins d'une trentaine qui concerneront le RPR. Alors le RPR, c'est pareil. Hein, ça, c'est un vieux parti. Hein, je vous le dis pour vous. Rassemblement pour la République. Le système était plutôt simple. De 86 à 96, les contribuables de Paris payait tout simplement les salaires des employés du RPR, donc moins d'une trentaine d'employés du RPR. Comme ça, ça faisait des économies au parti de Chirac. Pas bête ?
Pas bête.
Eh, pas bête. et donc, en décembre 2011, qu'est-ce qui se passe ? Bim, condamnation de Chirac à 2 ans de prison avec sursis. Et ça fait jaser. Car on n'a pas l'habitude de toucher au président ici. Enfin, aux ex-présidents. Parce que quand tu es président en France, de toute façon, tu as une immunité. Tu ne peux pas avoir d'affaires quand tu es président. Je ne vais pas épiloguer sur l'affaire, car j'ai plutôt envie de faire un quiz pour continuer.
Oui.
Est-ce que ça vous dit oui ?
Oui.
Oui.
Ouais.
Et là, j'ai même un jingle. Jingle.
Ah oui.
Rétro-quiz ! Avec des questions et puis les réponses.
Eh oui, alors... Il y a toujours des petites nouveautés ici.
C'est beau.
Ouais.
Ben c'est bien, voilà. Donc le quiz, ça va être simple. On va écouter un extrait, puis je vais vous poser une question.
J'ai moi aussi pour Alain Juppé, amitié, estime et respect. C'est un homme politique d'une très grande, d'une qualité exceptionnelle, de compétence,
d'humanisme, d'honnêteté. Et
il prend son temps.
La France a besoin de sa qualité.
Alors, c'est qui parle ?
Ça faisait longtemps. Jacques.
Jacques.
Jacques Chirac, bravo. Une question. Quand est-ce que Jacques Chirac parle là ? C'est quoi ? Quand est-ce que c'est cet extrait ? Et pourquoi Chirac est-il aussi sympa avec Juppé ?
Il est aussi sympa avec Juppé.
Alors l'année qui
parle ? Parce que Juppé, c'est lui qui va trinquer pour tout le monde en fait.
Ah ! C'est au tribunal.
C'est pas au tribunal.
Ce qu'on dirait, c'est le son, moi, parce que j'ai aucune idée de. Mais j'ai l'impression que c'est dans une salle, grande salle, où il y a des. C'est un peu vide. Enfin, tu vois, genre un truc.
Il fait une conférence de presse, ouais.
Ah, c'est une conférence de presse, ok, très bien.
Moi, je sais pas.
Je sais pas. Bon, c'est en 2004. Et pourquoi en 2004 ? Eh bien, parce que c'est suite à la condamnation de Juppé à 18 mois de prison avec sursis dans la même affaire. En gros, Juppé, c'est un ex-premier ministre, et puis surtout, c'était l'ex-président du RPR à l'époque. Homme politique d'une qualité exceptionnelle, honnête, la France a besoin de lui. Suite à ça, Juppé, il est parti 2 ans en exil au Québec, tout simplement parce qu'il était inéligible. Et puis, rétrospectivement, on peut quand même se dire que Chirac avait un peu chaud aux fesses. Allez, deuxième extrait.
J'éprouve beaucoup de peine, beaucoup de tristesse pour Jacques Chirac, parce que c'est un homme à qui je conserve bien sûr toute ma respectueuse affection. Mon admiration aussi pour ce qu'il a fait. Il a été un grand maire de Paris. Il a vraiment donné à la capitale un nouvel élan. Et puis, je crois qu'à la tête de notre pays, il a toujours fait preuve d'un engagement pour la France, d'un amour de la France et des Français, que les Français aujourd'hui lui rendent bien. Donc je ne pense pas que ce jugement changera ce lien affectif entre les Français et Jacques Chirac.
C'est Juppé. Beau. Franchement, ils sont très forts, les mecs, quand même.
C'est Juppé. C'est Juppé, et c'est quand, ça ?
Bah, la condamnation de Chirac, du coup.
Bah oui, c'est la condamnation de Chirac, c'est un petit renvoi d'ascenseur. Bah oui, t'as été sympa avec moi à l'époque. Bah, je suis sympa avec toi. C'est le 16 décembre 2011, sur France 3, on peut l'entendre. Le lendemain de la condamnation de Chirac. Tout le monde est gentil, finalement, c'est pas très grave, cette histoire d'emploi fictif, vu que tout le monde est condamné, en fait. Voilà. Un petit troisième témoignage ?
Allez.
On y va.
Aujourd'hui, j'ai évidemment une pensée très affectueuse pour Jacques Chirac. Et je pense que l'histoire retiendra avant tout un grand président avec des qualités humaines exceptionnelles.
Eh ben, c'est
Valoche.
C'est Valoche.
C'est Valérie Pécresse.
Et c'est Valérie Pécresse. Ouais. C'est Valérie Pécresse, évidemment, sur France 2, le 15 décembre 2011. L'histoire retiendra un grand président avec des qualités humaines exceptionnelles. Voilà. La candidate actuelle, les Républicains aux prochaines élections présidentielles, qui voudrait territorialiser les peines. C'est-à-dire que, selon elle, il faudrait que le fait de commettre une infraction dans un lieu dans lequel on en commet beaucoup trop soit une circonstance aggravante. Et ben, finalement, elle avait le même discours en 2011, mais plutôt dans l'idée d'une circonstance atténuante quand il s'agit des lieux de pouvoir.
D'accord.
Oh ouais. T'as vu, Adriana, comment ça se politise un petit peu ?
Ouais, bah beaucoup.
Ah bah alors là...
voilà. Allez, une petite dernière question très rapide, et là, sans extrait. Qui, dans cette liste, n'a pas été condamné à de la prison ferme par la justice française ? Et je précise que je compte les affaires aussi en cours. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des appels en cours, mais voilà.
D'accord.
Donc, la liste, c'est Bernard Tapie, Patrick Balkany, Jérôme Cahuzac, Jacques Médecin, Claude Guéant, François Fillon.
Condamné ou
condamné
inquiété
à de, condamné, ah, condamné, condamné à de la prison ferme.
Mais je sais pas, il y en a un que je connais pas, moi.
Jacques Médecin ?
Ouais.
Jacques Médecin, c'est un mec...
Yes. Bah lui alors.
Lui ?
Ouais, lui j'y crois pas, je le connais pas. Donc,
Non, j'irais pas lui non plus.
Tu dirais qui toi ?
J'ai un peu oublié.
Ouais, Bernard Tapie, Balkany, Cahuzac, Médecin.
Ah non, je sais Guéant, que
c'est Fillon. Qui nous a fait la bande des rap tout là, tu vois, je sais pas.
C'est pas Balkany, c'est pas Guéant, c'est pas Fillon. Ça pourrait être Médecin, mais c'est trop facile parce que c'est le seul qu'on connaît pas. Et c'était qui Tapie ?
Ça se trouve c'est Tapie parce qu'il est mort avant.
C'est pas Guéant. Ouais.
Guéant, il vient de se faire condamner, là, non ?
Eh oui, et non, c'était une question piège, voilà, c'est tout. Tout le monde en prison. Enfin, tout le monde, sauf Chirac. Et là, bim, la transition. On va terminer cette chronique avec une chanson tout à fait dans le thème. En 2006, alors que Jacques Chirac était encore président de la République, le plus cool des groupes de punk rock français, j'ai nommé les Vampas, sort un titre qui fera réagir Patrick Ollier, un député UMP dans la Dépêche du Midi. Ce dernier affirmera que le texte est scandaleux, qu'il mériterait d'être sanctionné. Il ajoutera même que le groupe a commis un délit passible d'emprisonnement et d'une amende. Attention à la musique, on fait gaffe avec Jacques Chirac. Donc je vous rassure, pas de prison pour Didier Vampas, le chanteur des Vampas, et pas pour Chirac non plus d'ailleurs. C'est parti pour Chirac en prison des Vampas.
passion. Elle ne pense qu'à ça. Elle n'endort plus la nuit. Elle me gâche la vie. J'en ai plus qu'assez. C'est une vraie maladie. Rien ne lui fera changer ta vie. Je ne sais pas ce qu'il y a pris. Car la seule chose qui lui ferait plaisir, ce serait de voir Chirac en prison. J'attends 2007. C'est mon seul espoir de sortir du brouillard. En la justice française. J'aimerais tellement lui faire plaisir, mais je n'ai pas assez de relations. Car la seule chose qui lui ferait plaisir, ce serait de voir Chirac en prison.
On est de retour sur Prune 92 FM dans l'émission Retro Buzz, l'émission qui suit la tendance avec 10 ans de retard. Ça va être à toi, Adriana. C'est ton moment avec cette nouvelle chronique. Et qui dit nouvelle chronique dit nouveau jingle.
Méga, hyper, super, Retro Buzz.
Ah, oula, t'es sûr de toi, là?
Pour ma...
Oh, le lancement, pardon, excuse-moi.
Non, pas de souci. Pour ma première chronique, je repousse les limites du concept de rétro buzz et je vous propose un buzz plus que rétro, un buzz du genre historique.
Oh. Ça va être genre historique. Genre historique.
Si vous n'aviez pas eu la ref, il s'agissait de la fameuse phrase introductive de Deux Nièces des Rap Contenders. Ah. Pour cette chronique, on ne va pas parler de rap, mais plutôt d'un événement qui a eu lieu non pas il y a 10 ans, mais il y a 110 ans. On retourne sur le continent asiatique puisque je vais vous parler de la Chine en décembre 1911. C'est le moment de tester les connaissances de nos auditeurs et de nos auditrices et les vôtres aussi, l'équipe. Mmh. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé en Chine en 1911 ?
Oui, bien sûr.
Déjà, 2011, c'est compliqué.
Alors.
1911, non, j'ai... Attends, non attends. Je ne vais pas m'aventurer, moi, personnellement.
C'est la chute du mur de la Grande Muraille de Chine, de Berlin.
La fin du Vietnam.
La création du Vietnam de Chine.
Non, personne n'a d'idée. Bon, bah tant mieux. Et si vous le saviez, bah, ne dites rien en fait, parce que vous allez gâcher ma chronique qui se base entièrement sur votre ignorance. D'accord. Donc personne ne sait, super. Heureusement, je suis là pour pouvoir vous éclairer un petit peu. Le 29 décembre 1911, la Chine devient une république. Bon, en fait, pas vraiment, parce que la proclamation officielle a lieu 2 jours après, donc en janvier 1912. Mais il se passe quand même un petit truc en décembre 1911 et il fallait bien que je fasse une chronique. Donc, le 30 décembre 1911, Sun Yat-sen, que l'on surnomme le père de la révolution chinoise, est élu président provisoire. Sun Yat-sen, en fait, est le premier président de la première république d'Asie. Mais alors, qui c'est Sun ? Et comment est-ce qu'il en est arrivé là ? Bah, c'est ce que je vais vous raconter. Sun a grandi dans un milieu assez pauvre, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. Puis vers ses 13 ans, il part à Hawaï pour rejoindre son frère, qui est devenu un riche marchand. Là-bas, il obtient la nationalité américaine. Et surtout, il découvre le christianisme et s'y intéresse beaucoup. Chose que son frère athée voit d'un mauvais œil. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi le fait de se convertir au christianisme ou le fait d'être intéressé par le christianisme, pour une personne chinoise, c'est assez étonnant à cette époque-là?
Parce que le concept de religion n'était pas inventé en Chine à l'époque.
Ah oui, non.
Moi, je dis des phrases. Hein,
ouais, tu dis des phrases.
Bah, là, réfléchir.
C'est des questions compliquées, je sais.
Non, je sais pas.
Bah, en fait, ça a à voir avec le confucianisme. Donc, le confucianisme, c'était ce que nous, en tant qu'occidentaux, quand on y allait, donc par rapport aux jésuites qui sont allés en Chine et en Asie en général, ont vu comme simplement une philosophie, mais en fait, c'était déjà une religion. Donc, on va dire que c'est la religion chinoise. Et donc, c'est très étonnant de s'en éloigner pour adopter une religion occidentale, le christianisme.
Bref, je retourne à mon histoire. Du coup, son frère athée voit ça d'un très mauvais œil et il le renvoie en Chine. Mais en fait, ça ne va pas changer grand-chose puisque Sun, une fois arrivé en Chine, va se faire baptiser par un missionnaire américain. Mais le fait d'avoir voyagé, ça va aider Sun à se rendre compte de quelque chose de super important. Il réalise le fossé qu'il y a entre ce qu'il a vu et vécu à Hawaï et la situation de la Chine. Et c'est comme ça que lui vient l'envie de renverser le régime. Il crée alors en 1894 le premier mouvement révolutionnaire moderne qui s'appelle, et là je m'excuse pour la prononciation, le Xingonghui. Alors,
pas mal.
Merci. Ce qui veut dire la Société pour le redressement de la Chine. Parce qu'en fait, Sun, c'est un nationaliste qui trouvait qu'il y avait trop d'étrangers en Chine et que ça empêchait le pays de prospérer.
Et voilà.
Oui, nous avons tous pensé à la même personne, mais nous tairons son nom pour le bien commun et pour que je puisse continuer cette histoire passionnante, n'est-ce pas? Surtout que Sun, lui, il voulait lutter contre l'impérialisme occidental. Donc, c'est pas exactement la même idéologie. Enfin bon, je continue. Finalement, Sun fait beaucoup d'allers-retours entre la Chine, l'Europe et les États-Unis parce qu'il n'est pas le bienvenu en Chine et qu'il a constamment besoin de financement de l'étranger pour maintenir son mouvement révolutionnaire. Et c'est comme ça jusqu'au jour de la révolte du double 10.
Mais non.
Ouais, double 10. Double 10.
Ça et fait ben 20.
Non, du coup là c'est vraiment important que ça s'appelle double 10 parce que c'est lié à la date, le 10 octobre 1911, donc 10-10-11, double 10. C'est cette révolte qui va mettre fin à la dynastie Qing qui régnait dans le pays depuis plus de 200 ans. En fait c'est carrément cette révolte qui met fin à la période de l'Empire en Chine. À ce moment-là, Sun, il n'est pas présent. Le jour de la révolte, il est aux États-Unis et il ne se presse pas énormément pour revenir puisqu'il apparaît que 2 mois après, du coup en décembre. Et c'est là qu'il est choisi pour être le président provisoire de la Nouvelle République chinoise.
Wow. Oh, ça tombe bien.
Alors, pour finir cette chronique, puisque vous ne connaissiez pas cette histoire, j'ai une petite devinette. Est-ce que vous savez pour quel pays le double 10, donc le 10 octobre, est un jour de fête nationale et ce n'est pas la Chine?
C'est pour la,
un truc qui n'a rien à voir.
Le Vietnam. Rien à voir.
L'Espagne.
Pas rien à voir, d'accord.
Ah, non.
Ça a à voir. J'étais partie trop loin.
L'Espagne.
C'est un pays en Asie. Hein.
Taïwan.
Oui, c'est Taïwan.
Oh, alors
voilà.
Très bien. Il aurait pu apporter le surf aussi, non, en Chine?
Il aurait pu, mais ce n'est pas lui.
Bon, pas de vague.
Il est d'Hawaï.
Oui.
Ben merci à toi, Adriana.
Désolé.
On arrive donc à la fin de cette émission. On espère que cette heure consacrée à quelques buzz de décembre 2011 vous aura comblé de joie. Et avant de se quitter, on va quand même vous dire à quoi vous avez échappé au sujet de décembre 2011.
On aurait pu parler des seins de Laurie qui avait fait le buzz sur Twitter lors de l'élection de Miss France. Mais par souci d'égalité, on aurait aussi dû parler de la poitrine de Jean-Pierre Foucault. Et ça, désolé, mais non.
On aurait pu parler de la NASA qui, le 5 décembre 2011, annonce la découverte d'une planète semblable à la Terre, appelée alors Kléber 22b. Mais quand on a carrément oublié cette info, c'est que cette planète doit toujours pas être vivable. Voilà.
On aurait pu vous parler de Paris Jackson, la fille de Michael, qui décroche à 13 ans en décembre 2011 son premier rôle dans un long métrage d'aventure, mais franchement le scénario était vraiment pourri. Elle y incarne une jeune fille du fond de l'océan qui suit un lavage de cerveau tenté par la reine Méduse. Tout un programme.
On aurait pu vous parler de comment le présentateur Yann Barthès a prouvé que l'émission Appel d'urgence était trafiquée. Mais moi, je connais absolument pas cette émission et je la regarde pas.
On aurait pu parler de Michael Vendetta qui voulait se lancer dans la politique, mais vraiment, j'aurais eu peur de lui redonner l'idée de le faire. On a déjà bien assez de gens que j'aimerais pas voir diriger le pays en compétition.
On aurait pu vous parler des 6 millions de dollars empochés par Jay-Z et Kanye West pour l'anniversaire d'une ado de 16 ans voilà, à Dubaï. Mais on est un peu trop jaloux voilà, pour ça, surtout qu'en 2011, bah, j'avais plus que 16 ans et toute l'équipe aussi, je crois, sauf toi.
Sauf moi, j'avais 11 ans.
Voilà, on était un peu trop vieux pour ça.
On aurait pu parler de cette découverte d'un homard albinos au large, au large des côtes du Dorset au Royaume-Uni le 13 décembre 2011. Mais outre le fait que son achromasie, son albinisme, on dit aussi, lui avait permis de survivre aux prédateurs pendant plus de 30 ans, bah, le homard a fini dans la casserole du pêcheur. Donc en fait, c'est con.
Pour rester dans le thème animalier, on aurait pu vous parler du décès de Cheetah, le chimpanzé qui était apparu dans les films de Tarzan dans les années 1930. Mais en fait, on n'est pas vraiment sûr que ce soit lui parce qu'il y avait beaucoup de singes qui ont joué le même rôle.
Eh ben c'est tout bon pour la fin de cette émission, merci. Donc avant de conclure, on vous invite évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a un compte Instagram qui s'appelle Retro Buzz Prune, tout attaché, pour découvrir les coulisses de l'émission, des teasers, des infos et nous donner vos retours. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission en podcast très très bientôt sur le site de Prune, www.prune.net. On vous laisse avec la suite, la playlist de Prune. Salut,
oui,
à bientôt,
salut.
Au mois prochain. Ciao.
L'année prochaine.